Salut, ici Guillaume Achet. Vous écoutez 70 minutes avec. Mais bonjour, ravi de vous retrouver. Je vous avais promis un épisode estival. Chose promise, chose due. Donc, pour rappel, c'est un épisode en solo pour vous donner quelques nouvelles, quelques histoires croustillantes, répondre à vos questions et surtout aussi vous parler des grandes nouveautés. Et là, vraiment, j'insiste, c'est pas, j'exagère pas du tout. C'est des grandes nouveautés pour cette nouvelle saison de 70 minutes avec. Vous allez voir, c'est vraiment... Il y a du lourd. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter ça tout à l'heure. Pour rappel, hein, pour les personnes qui n'auraient peut-être pas écouté l'épisode précédent, l'épisode solo que j'avais fait fin 2021, concrètement, l'idée, c'est que je suis tout seul. Si vous êtes intéressé par les sujets de société, par les invités que je peux recevoir et que ce sont les sujets qui vous intéressent, effectivement, sans doute que mes petites anecdotes, mes petits retours sur le fait d'être intervieweur pour 70 minutes avec, pas forcément ce qui vous intéresse le plus, c'est tout à fait légitime, vous n'êtes pas du tout obligé d'écouter cet épisode-ci, et je vous retrouve dans 2 semaines, puisqu'effectivement, je fais cet épisode estival assez tard, je le livre seulement 2 semaines avant que la nouvelle saison démarre, donc ce sera avec Caroline Désir, ministre de l'enseignement obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc en Belgique francophone. Je sens que ça va être un très très bon épisode où on va parler de plein de choses, d'inclusion, de féminisme, de harcèlement, de voilà. Bref, c'est pas encore enregistré, j'enregistre ça dans 2 jours en fait, au moment où j'enregistre cet épisode-ci. Mais donc allons-y, lançons-nous. En termes de questions que j'ai pu recevoir donc, sur les channels habituels, c'est-à-dire les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, en message privé et sur Curious Cat aussi. Une première question, c'est que trouves-tu le plus difficile à faire dans la création de podcasts? Et ça, je pense que j'y avais déjà répondu la dernière fois, mais vraiment, je me permets de revenir ici parce que c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Le plus dur pour moi, c'est pas l'interview elle-même, c'est pas l'écriture des questions, c'est pas la recherche pour le sujet, c'est pas le montage, c'est pas l'hébergement, c'est pas la production. Toutes ces choses-là prennent énormément de temps. Mais vraiment, le plus dur pour moi, en fait, c'est de trouver une invitée et d'arriver à l'inviter, d'arriver à le ou la convaincre que c'est une excellente idée de venir. Puisque, en fait, les gens sont occupés. Les gens, en particulier s'ils habitent en France, s'ils habitent à Paris, s'ils habitent à Toulouse ou ailleurs, ne connaissent pas forcément ou même rarement 70 minutes avec. Et donc, c'est plus dur de trouver des invités de qualité. Je me souviens que la première année, et ça, j'y repense régulièrement, la première année, j'avais fait 25 invités en une saison. Donc, c'est vraiment de manière très régulière. Un invité ou une invitée toutes les 2 semaines. Et vraiment, je galérais pas, quoi. C'était, bon, qui est-ce que je peux inviter? Vas-y, j'envoie un message à machin. Il me dit, ah, ok, tu devrais inviter Trucmuche. Et hop, super idée, vas-y, j'y vais. Je vois un article dans le journal sur le nouveau livre de Philippe Van Parijs. Eh ben, on va dire, ok, je lui envoie un email et je l'invite. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment changé de... je mets peut-être la barre un peu plus haut, je suis peut-être plus exigeant par rapport aux épisodes que j'ai envie de produire. Donc, pour rappel, hein, la façon dont moi je travaille pour trouver un bon épisode, c'est un trio entre un sujet de société qui est vraiment quelque chose dont tout le monde a entendu parler ou quelque chose sur lequel j'aimerais que davantage de personnes prennent conscience des enjeux dont il s'agit. Hein. Je suis très content, par exemple, d'avoir pu faire des épisodes sur, je sais pas moi, la schizophrénie, l'endométriose, l'autisme, ce genre de choses. Donc un sujet voilà, de société qui me paraît important, pas un truc anecdotique, j'espère. J'espère que je vais jamais faire un épisode sur des sujets dont on se fout complètement. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, une intervenante ou un intervenant de qualité qui va pouvoir être charismatique, qui va pouvoir apporter... Le mieux, c'est un vécu, un partage d'expérience qui va pouvoir... créer de l'empathie entre l'auditeur, l'auditrice et la personne qui est invitée. Et enfin, un angle qui fait que, à l'écoute de l'épisode, la personne va pouvoir se dire « Eh ben, ça, j'y avais jamais pensé. » Voilà, un exemple simple, c'est on pourrait parler de cyberharcèlement avec une personne dans sa tour d'ivoire, un chercheur à l'ULG qui a travaillé sur ces questions. Ou bien, on peut avoir, et c'est ce que j'avais fait avec Florence Henault et Marie Pelletier, on peut avoir j'avais fait la combinaison entre une professeure, une universitaire qui étudiait ces questions de complotisme, de harcèlement, etc., qui connaît très bien ces questions-là, et une Florence Henault qui connaît aussi très bien ces questions, mais qui est aussi, en plus, du vécu à partager. Et donc, ça faisait vraiment une très bonne combinaison, un angle particulier qui faisait que, de fait, ça, c'est quelque chose dont je suis très fier, c'est j'ai eu des retours, beaucoup de retours pour ces épisodes-là, de personnes qui me disaient « Eh ben, j'ai écouté ça et ça a vraiment mind blown, ça a vraiment changé ma perception des choses, j'y avais jamais pensé, c'est super intéressant, c'est vraiment, j'ai adoré. » Donc ça, c'est les trois composantes qu'il me faut pour faire un épisode de qualité, je trouve, c'est ce que j'exige. Et donc, ben, au fil des années, je suis de plus en plus exigeant par rapport à ça, et j'ai envie d'avoir, je suis de plus en plus exigeant par rapport à ce que je peux produire comme podcast, et donc, malheureusement, souvent, ben, je galère, je veux inviter quelqu'un, et en fait, ça marche pas, elle est trop occupée, elle répond pas, elle a pas envie, voilà, ça peut pas se faire pour x ou y raison. Et du coup, bah en fait, vous avez certainement remarqué, il est arrivé au cours des saisons précédentes que bah, plutôt que d'en avoir 25 comme la première année, eh ben, il y a eu des saisons, je crois, avec 10 ou 11 épisodes. Ce qui est quand même un peu triste, parce que c'est révélateur du fait que voilà, j'ai pas pu tenir le rythme que je m'étais imposé. Bon, par ailleurs, hein, j'ai des choses qui m'arrivent dans ma vie privée, des choses qui font que dans ma vie professionnelle aussi, qui font que j'ai peut-être moins de disponibilité qu'au début. Mais voilà, c'est pour répondre à cette question de façon courte, en 5 minutes chrono. C'est ça le plus dur pour moi, c'est booker, trouver des invités. Et parfois, on me fait des propositions, on me dit « mais tu devrais inviter truc ». Bon, j'ai pas toujours envie, je suis assez difficile, je crois. Et donc, c'est moi-même qui fait que... cette difficulté vient de moi-même, en fait, je pense, en grande partie. Mais donc voilà pour cette première question. Une autre histoire que je peux vous raconter et sur laquelle j'avais envie de revenir aujourd'hui avec vous, avant de parler des nouveautés de cette nouvelle saison, cette cinquième saison de 70 minutes avec, un épisode sur lequel je voulais revenir, c'est l'épisode de tout ce qui a suivi la publication du podcast avec Myriam Leroy à toute fin de l'année 2021, toute fin du mois de décembre. Donc, pour rappel, hein, Myriam Leroy, grande amie du podcast à qui je dois énormément, m'envoie un message en décembre, je crois, pour me dire que voilà, le procès contre son harceleur va bientôt toucher à sa fin, qu'on attend ça depuis des années, puisque voilà, le harcèlement, pour rappel, a commencé, je crois, en 2011 ou quelque chose comme ça. Forcément, c'est absolument choquant que ça ait pris autant de temps. Et donc elle me dit ben, « j'aimerais bien trouver un endroit pour parler de mon vécu, commenter, expliquer ce qui se passe, parce que c'est vrai que, comme elle a eu raison, je crois, de le faire, hein, comme elle s'est retirée il y a longtemps de Twitter, ben, concrètement, si j'ouvre Twitter et que je vais voir dans les cercles un peu voilà, politique belge, les gens très actifs sur Twitter et tout ça... on vit dans une autre dimension, quoi. C'est des gens qui nous expliquent que c'est le vécu de Myriam et de Florence est complètement inventé, fictif, et qu'elle se pose en victime, et blablabla. Bla bla. Et on lit des choses, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui vivent dans une réalité complètement alternative, quoi. Bref, et donc elle voulait trouver un endroit pour pouvoir se confier, raconter tout ça, remettre les choses en ordre sur son vécu, comment elle l'avait vécu tout ça, et remettre les points sur les i, et comment ça s'était vraiment passé, quoi. Et donc j'accepte, parce que c'est un sujet, c'est une personnalité intéressante, c'est un angle intéressant, bref, c'est tout ce qui me plaît, c'est parfait. Et donc on fait cet épisode, on fait une première version que finalement on a jetée à la poubelle, parce qu'il y avait des choses qui étaient peut-être un peu trop cash. Je me souviens notamment qu'on parlait de ces trois harceleurs explicitement, en donnant leur nom, de manière trop claire, et Voilà, Myriam, je crois, a eu raison de vouloir se protéger, et donc on a réenregistré un deuxième épisode où on était un peu plus prudent, où on laissait leur anonymat à ces trois personnes, à ces trois connards. Cet épisode est publié, après donc sa victoire, hein, puisque la première version de l'interview, on l'avait faite avant que le verdict soit livré. La deuxième version, on l'a enregistrée après que la bonne nouvelle soit arrivée. Donc, Myriam était super heureuse. On avait célébré ça chez elle, je me souviens, le jour où le verdict a été prononcé. On réenregistre cet épisode. Je repasse encore un peu de temps à le monter, à faire des modifications là où il faut, etc. Et donc, on publie cet épisode. Et il y a un truc avec Twitter en Belgique. C'est assez incroyable, hein, mais on parle de Florence Henault et de Myriam Leroy. Pour vous donner une idée, mon expérience de Twitter, c'est très calme. Hein. Je suis pas dans les cercles. Je ne follow pas, je ne réponds pas, je n'interagis pas avec tous les gens qui vont commenter toute l'actualité belge, politique, vont insulter les gens de telle commune bruxelloise, de tel parti politique, machin, truc. Moi, mon Twitter, c'est plutôt axé sur mes centres d'intérêt, que ce soit la technologie, les jeux vidéo, les podcasts, les sujets que je peux explorer aussi dans ce compte Meet avec, voilà, tout ça. C'est des sujets qui m'intéressent et je suis très loin de la toxicité dont on parle très régulièrement quand on parle de Twitter. Aussi parce que je ne suis pas une femme, aussi parce que je n'ai pas un niveau de notoriété qui fait que je suis exposé à ce genre de trucs. Mon expérience de Twitter est plutôt calme de manière générale. J'ai pas des notifications tous les jours. Mais il y a un truc assez magique avec Twitter en Belgique, c'est qu'on parle de Florence Henault ou de Myriam Leroy, et directement, directement les notifications, ça explose, quoi. Mon téléphone commence à vibrer, tout ça. Très rapidement, un des trois harceleurs, et moi j'ai pas peur de donner son nom, hein, parce que je m'en fiche royalement, c'est très clair à mes yeux, mais c'est un gars qui s'appelle Marcel Sel, Marcel Piana, je ne le mentionne pas, je ne le sonne pas, je ne lui adresse pas la parole. Et immédiatement, je me souviens qu'il arrive dans mes mentions et il commence à commenter de manière hyper condescendante en m'expliquant que c'est pas ma faute, que je suis ignorant, que je suis manipulé, qu'on me ment et que je suis. C'est quoi le mot que je cherche hein? Un idiot utile, quoi. Parce que ce type vit vraiment dans sa... C'est incroyable, hein, mais il vit dans sa réalité alternative, où il pense être un grand journaliste qui a tout percé, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui écrit de la fiction, quoi, et qui pense vivre dans sa petite fiction. C'est très impressionnant, très flippant. Et donc, il arrive dans mes mentions, il arrive dans mes notifications, et je reçois ses messages. Et je me souviens que concrètement, Marcel Sel, c'est quelqu'un à qui je déconseille de se disputer. Je déconseille à quiconque qui est sur Twitter et les réseaux sociaux en Belgique de faire un ennemi de Marcel Sel. C'est quelqu'un qui a des pratiques assez horribles en termes de... Il va se débrouiller pour envoyer sa meute, envoyer sa foule de followers qui boivent ses paroles, qui croient tout ce qu'il peut raconter d'ineptie. Je déconseille à tout le monde d'en faire un ennemi. Genre, mon conseil, c'est mettez-le en sourdine, mutez-le, ignorez-le, ne lui répondez pas, n'interagissez pas à lui, ne le mentionnez pas, ne faites rien, ignorez-le. Ça ne résout pas les problèmes si vous êtes harcelé, si vous êtes sa cible. Mais si vous n'êtes pas son ennemi, je vous déconseille de le devenir, parce que vraiment, c'est très, 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 très chiant. Concrètement, je me souviens que la nuit de la publication de cet épisode-là, directement, donc il arrive dans mes mentions, et je vois ça, et directement, mais grosse tension, ça me saoule, mais immédiatement, et... Malgré tout ce que je viens de vous expliquer, de manière rationnelle, c'est ma conviction, il ne faut pas en faire un ennemi. Mon réflexe en 2 secondes, c'est très instinctivement, ben, j'ai bloqué ce gars parce que je ne voulais pas l'avoir, je ne veux pas l'avoir dans ma vie. Ça, c'est quelque chose que j'assume complètement. C'est vraiment, c'est vraiment une grosse merde humaine et je ne le veux pas dans ma vie. Voilà, c'est quelque chose de très légitime. Et il y a un truc avec ce gars, et c'était déjà le cas avec Florence Henault, avec toutes les personnes qui sont ses cibles, c'est que il ne supporte pas d'être bloqué, il ne supporte pas qu'on lui dise « je ne veux pas de toi dans ta vie ». Et mon analyse de ça, c'est que c'est un gros narcissique qui veut tout le temps être sous le spotlight, qui veut tout le temps avoir l'attention de tout le monde, et que quand on lui envoie un signal pour lui dire « non mais casse-toi, mais je ne veux pas t'avoir dans ma vie, casse-toi quoi, débarrasse le plancher, vers de terre », et voilà, c'est quelqu'un qui ne supporte pas ça, et donc directement. Alors que c'est quelqu'un qui... J'avais toujours adopté cette technique de toujours éviter de m'en faire un ennemi, ignorer ce qu'il avait à dire ou alors répondre très très poliment pour éviter d'être... Voilà, mais c'est un harceleur, c'est une brute. C'est pas différent en fait. Hein, on a tous, je pense, des souvenirs des brutes de l'école secondaire qui parlent très très mal à d'autres personnes. Et qui en font leur cible, et qui les harcèlent, et qui leur font du mal. C'est les mêmes personnes, hein. C'est les mêmes gens, c'est les mêmes comportements, c'est pas différent. Et donc concrètement, je voulais éviter de m'en faire un ennemi. Je me répète beaucoup, désolé. Mais donc, voilà, sur très, très impulsivement, je le bloque. Et là, mais tout explose, parce qu'il trouve ça insupportable, et il commence concrètement à... faire ce truc où il me tag dans ses tweets alors que donc je l'ai bloqué, donc je ne vois pas forcément ses mentions, ça ne sert pas à attirer mon attention, ça ne sert pas à dire hey, Guillaume Haché, regarde, je parle de toi, parce que il sait très bien que je l'ai bloqué, que je ne vois pas ses tweets, que je ne suis pas en capacité d'entendre ces gémissements de vers de terre. Je ne pense pas que les vers de terre gémissent, mais vous avez compris la formule. Et donc, pourquoi est-ce qu'il me tag concrètement? Mais c'est parce que son armée de harceleurs, son armée de followers qui boivent ses paroles très naïvement, bah, du coup, ils peuvent juste cliquer, ils peuvent juste arriver sur mon profil. Et j'ai vu, mais arriver une cascade d'insultes. Donc, concrètement, c'est très étrange, hein, mais c'est des photomontages de ma tête, ma photo de profil avec un peu des couleurs déformées, avec un zoom sur mon visage de façon à ce que ce soit pas flatteur du tout. Et qu'on, voilà, et donc le photomontage mis à côté d'un dessin qui est pas non plus flatteur du tout. Et c'est tout des trucs comme ça avec des gens sous pseudo, tout ça. Et c'est... Je crois que j'ai longtemps fait partie des gens qui, quand ils entendent le harcèlement, quand ils entendent les témoignages de victimes de harcèlement, de cyberharcèlement, mais ont tendance un peu à dire ouais, mais enfin, tu bloques les gens et tu passes à autre chose et tu fais pas attention et enfin tu voilà quoi. Et c'est il aura fallu que je vive ça et encore. Je crois que c'est quoi? C'est 1% de ce que vivent les femmes, les Myriam, les Florence au jour le jour. Mais il aurait fallu que je le vive pour vraiment comprendre en fait à quel point c'est insupportable les gens qui te disent que tu dois pas faire attention et que tu veux juste passer à autre chose. Parce que c'est une attaque, c'est comme une baffe dans la figure, c'est comme un crachat dans votre face. Vous pouvez ignorer un crachat dans votre face, vous pouvez faire comme si c'était rien passé. Mais au bout de la 10e fois, ça commence à peser très très lourd, quoi. Et très rapidement, ça a été assez insupportable pour moi de vivre ça. Et voilà, je vous parlais de la technique un peu sournoise de Marcel Cell de me taguer dans cette tweet, alors que juste pour ramener sa meute contre moi. Et donc concrètement, je voyais apparaître des tweets de... comment il s'appelle encore ce gars professeur de nucléaire à l'Université de Liège. J'ai oublié. Je suis très heureux d'avoir oublié son nom. Je voyais apparaître des tweets de ses fans, de tous ces. Ces hyènes, c'est un peu comme Scar dans le Roi Lion, ces hyènes qui me sautaient dessus, qui m'insultaient. Et donc, je voyais apparaître tous ces tweets-là dans mes mentions. Et je me disais, mais moi, je suis informaticien. Donc, mon réflexe, c'est OK, il est où le bouton où je dis stop? Comment est-ce que je fais pour que ça s'arrête? Parce que j'ai déjà bloqué le mec à la base, mais visiblement, ça ne suffit pas. Donc là, j'ai eu un peu une période de sentiment de perte de contrôle, de qu'est-ce que je fais, comment est-ce que j'échappe à ce truc. C'est assez insupportable. Et encore une fois, c'est parce que je suis informaticien, parce que j'ai les ressources, que je suis... je ne sais pas pourquoi je dis informaticien, j'aime pas tellement ce mot en fait. Je suis développeur, voilà, je suis un geek. C'est parce que j'ai ces connaissances-là que j'ai été en capacité d'aller dans les options de Twitter et que j'ai trouvé un truc pour bloquer, mute, mettre en sourdine tous les tweets qui mentionnaient à la fois Marcel et moi pour éviter de voir ce genre de conneries arriver dans mes mentions. Et ça suffit pas, puisque encore après ça, il y a encore des gens qui, mais vraiment avec une violence des propos, mais d'une gratuité, d'une violence... assez impressionnante. Voilà, maintenant j'ai le recul, je peux un peu en rigoler, mais c'est assez bluffant comment ces gens parlent mal et agressivement et violemment. Et ce qui était fascinant aussi, c'est tous ces gens, en fait, un truc qui revenait régulièrement dans leurs attaques, c'était que j'étais un écolo, que j'étais un gauchiste, que j'étais un vert, que j'étais un Khmer vert, je sais plus, bref, ils employaient des expressions complètement pétées. Il n'y a pas de couleur politique pour 70 minutes avec, hein. Et j'ai pas de couleur politique moi-même. Je ne revendique pas une proximité à un parti politique quelconque. Et je vous assure que je ne suis pas aligné sur un parti politique en particulier. J'ai des convictions personnelles et sans doute que ça transparaît dans le podcast. Mais le fait que ces gens m'insultent avec ces mots-là, c'était quand même assez... Mais de quoi tu parles? Enfin, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la réalité, mais ces gens se construisent leur propre réalité où tout a beaucoup de sens et où tout ce qui leur déplaît est vert et tout ce qui est vert leur déplaît. Et tout ça est la même chose et tout ça doit être attaqué, doit être insulté, doit être harcelé. C'était assez bluffant. Et un autre truc que je peux raconter, c'est que donc le soir de la journée où je publie cet épisode de l'interview de Myriam, donc je bloque Marcel qui directement commence à prendre des screenshots de mes tweets et à m'attaquer et tout ça. Le lendemain, je partais, c'était un dimanche, je partais. Est-ce que c'était un dimanche? Je ne sais plus. On s'en fout. Je partais rendre visite pour Noël, je crois, ouais, c'est ça, à mes parents. Et je regarde un peu vite fait mon téléphone et je vois que j'ai une notification pour le compte de 70 minutes avec, qui a donc aussi bloqué Marcel, parce que j'ai bloqué partout. Et je vois que j'ai reçu un like de, je crois que c'était genre Elise underscore Marcel Cell, qui est donc le compte Twitter du livre, le roman de Marcel, qui est donc un compte Twitter promotionnel qui lui est dédié, soit. Et donc, concrètement, c'est Marcel qui sait que j'ai bloqué et qui vient arriver dans mes notifications avec son compte alternatif, juste pour mettre un like et juste pour me faire comprendre que et je suis toujours là, hein. Hey, tu peux pas m'échapper, hein. Hey, t'essaies de me bloquer, mais en vrai, hey, je reste là, hein. Je continue à t'emmerder. Et waouh, mais waouh, quoi. Le niveau. Mais qu'est-ce que ces gens... On voit que ces gens tweetent 10 000 fois par jour et passent énormément de temps sur Twitter. On voit que ça, c'est quelque chose qui a énormément d'importance pour eux. Et en particulier pour lui, quand on lui retire son spotlight, qu'on le bloque, ça le met dans une colère monstre. Un autre truc qui était arrivé aussi, c'était Donc, parmi les trois harceleurs, on parlait d'un gars qui est journaliste au Focus Vif, et je le décrivais dans l'interview avec Myriam comme quelqu'un qui avait probablement, un peu comme les deux autres, un profil un peu narcissique, un peu dans le sens où il a le seum, quoi. Il a le seum que d'autres personnes, journalistes, créateurs, créatrices de contenu, décroche des bourses, remporte des prix, crée des podcasts, soit félicité, soit remercié, soit célébré. Et que donc, il avait le seum et il les insultait comme de la merde. Et donc, je commentais en disant, ben voilà, c'est un gars qui a un peu un profil narcissique et quand c'est pas lui qu'on célèbre, eh ben ça l'énerve. C'est une remarque que j'avais fait, voilà, il dure, je crois, une seconde dans le podcast qu'on a fait avec Myriam. Et concrètement, ce gars, déjà, je crois qu'il avait fait un tweet. Il a commencé par, évidemment, comme toute personne charmante, il avait remonté mes tweets et il avait vu que j'avais fait un petit tweet avant de partir en réunion de famille pour Noël au mois de décembre. J'avais fait un petit tweet où je disais que je venais de faire un autotest, où je m'étais enfoncé un truc, une tige loin, loin, loin dans mon nez, très désagréable, et ça je ne vous apprends rien. Et donc j'ai fait un tweet pour dire que c'est très désagréable, voilà. Tweet très important, très, très essentiel. Je ne tweete pas énormément, et je pourrais revenir sur le fait que même tweeter un truc comme ça, en fait, c'est dur pour moi, parce que j'ai toujours l'impression que ça va intéresser personne, que je vais déranger, que je vais pas être comme il faut. Enfin voilà, j'ai un petit stress par rapport à ça. Ne me jugez pas. Et donc il remonte mes tweets, il trouve ce tweet là et il m'explique que il prend ce tweet et il explique que voilà. En fait, je dis que lui il est narcissique, mais je raconte ma vie et mes détails insipides je m'enfonce une tige dans le nez, donc vraiment. Vraiment, c'est celui qui dit qu'il est, hein, parce que vraiment, clairement, c'est moi le harceleur. Pardon, c'est moi le narcissique. Ce qui est vraiment... Waouh, c'est le mot que je vais employer, je crois, 10 000 fois aujourd'hui, tellement... J'ai pas les mots pour décrire les réflexions débiles, les comportements violents dont ces gens sont capables. Et encore une fois, tout ça, je le jugeais de l'extérieur. J'en avais une idée de l'extérieur. Et je n'y étais pas confronté, je ne suivais pas ces gens, je ne voyais pas leurs tweets apparaître. Et donc, le fait d'y être confronté, ça m'a vraiment remis les pieds sur terre pour pouvoir beaucoup mieux comprendre ce dont on parle. L'exemple du « en fait, c'est lui qui est narcissique », c'est pas ça la violence, hein, mais je veux dire, c'est « waouh », voilà. Parce que, comme je le disais, je n'ai pas les mots pour décrire ce genre de comportement. Et donc, il fait son tweet débile, je ne réagis pas, je ne réponds pas, j'attends juste que ça passe. Et je me souviens qu'il me bloque. Ok, nickel, très bien, pas de souci. Et du coup, voilà, c'est fait, quoi. Et quelques jours plus tard, il me débloque pour pouvoir continuer à me chier dessus. Et à ce moment-là, c'est moi qui le bloque. Parce que, en fait, je m'étais dit que ce problème était réglé, puisque quand on bloque, les communications sont coupées dans les deux sens. Et donc, il me débloque, et donc, je le bloque alors. Et là, il fait un tweet pour dire « Ah, trop bien, j'ai été bloqué par Guillaume Haché, regardez, on ne peut plus rien dire, j'ai gagné, je suis victorieux. Regardez-le, comment il peut pas supporter de voir ce que j'ai à dire sur lui. » Waouh, vraiment, encore une fois, j'ai pas les mots. Le mec me bloque, et puis genre se félicite d'être la victime du blocage. Enfin, bref, incroyable. Et l'autre truc dont je peux parler pour faire le tour de tout ça, c'est que à un moment donné, dans l'interview avec Myriam, elle parle d'un journaliste, Frédéric Brébon, qui travaille au Focus Vif, et elle le dit très explicitement, elle donne son nom et tout ça. Il explique qu'il a fait des déclarations sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et compagnie, où il expliquait en gros qu'il avait très envie de se désinscrire de l'AJP, qui est donc le l'association des journalistes professionnels, qui est une espèce de, entre gros guillemets, de syndicat des journalistes en Belgique, en Belgique francophone. Et lui disait qu'il voulait se désinscrire pour ne pas payer la cotisation parce qu'il ne voulait surtout pas que ça participe aux frais, parce que la JP protège Myriam et Florence dans leurs frais légaux, voilà, dans les frais d'avocat pour les poursuites judiciaires contre leurs différents harceleurs. Et donc, voilà, il fait ce genre de tweet-là, il explique qu'elle se pose en victime, blablabla. Et donc, Myriam, elle balance parce que, et elle le disait dans l'interview, c'est quelqu'un qui a une grande visibilité, c'est quelqu'un qui est retweeté et liké par d'autres personnalités importantes dans le paysage médiatique journalistique belge. Et donc, elle dénonce ça. Et je précise que vraiment, vous vous débrouillez un minimum avec le moteur de recherche de Twitter. En 5 secondes, vous retrouvez ces déclarations-là. Bon, j'ai reçu un email très très énervé de ce monsieur Frédéric Brébant, où il expliquait que tout était faux, qu'il demandait un droit de réponse, qu'il demandait à ce que ce soit coupé, blablabla. Et concrètement, j'ai refusé sa demande, entre autres choses, parce que ben, en 4 secondes, je pouvais retrouver les captures d'écran, les tweets, où il a fait ses différentes déclarations. Et je lui explique ça vraiment, parce que j'ai un ton très poli. Donc je lui explique et j'argumente. Je montre les différentes captures d'écran. J'explique, voilà, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Du coup, c'est pas tout à fait cohérent de dire ça, mais je veux bien passer de votre point de vue, être vraiment de bonne foi et tout ça. Mais malgré tout, ça, voilà, il y a quand même cet autre tweet qui va dans ce sens-là. Enfin, bref, donc je lui explique que supprimer le passage du podcast, déjà, ça va être très difficile parce que voilà, sur YouTube, sur Spotify, etc., c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et surtout que, ben, voilà, tout ça est avéré. Tout ça est clairement avéré, on le voit. C'est hyper facile de le constater. Et vraiment, j'ai répondu vraiment de manière cordiale et en me disant, mais s'il me manque quelque chose, si quelque chose m'échappe, mais n'hésitez pas à éclairer ma lanterne. Et il m'a répondu, mais d'une violence, encore une fois, tellement mal. Je suis toujours choqué quand les gens parlent aussi mal, de manière aussi violente. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, franchement, parce que j'ai argumenté de manière très, très douce et très cordiale. Mais voilà. Et donc, ce gars, voilà, ça s'est terminé. En gros, il a menacé de m'envoyer ses avocats. Bon, ça, c'était, je crois, en janvier. On est en août. Voilà. Classique, hein. C'est des menaces complètement du vent, du pipeau, pour essayer de me faire peur. Au pire, j'aurais bien aimé payer un avocat, je sais pas combien ça coûte, mais quelques milliers d'euros, une dizaine de milliers d'euros, je ne sais pas. Ça dépend du prix qu'on est prêt à y mettre. Mais j'aurais bien été capable d'accepter de lui faire face, parce que vraiment, c'était assez choquant. Je suis choqué, vous l'aurez compris, par tous ces comportements plus dégoûtants les uns que les autres. Et le dernier truc aussi que je peux rajouter, c'est que donc à un moment donné, le JD, donc la personne qui a perdu son procès avant de faire appel donc contre Myriam pour des faits de harcèlement graves, il a fait un commentaire donc en réponse au podcast de 70 minutes avec, où il disait en gros je connais pas particulièrement bien Georges-Louis Boucher, mais visiblement, toutes les personnes qui ne m'aiment pas ne l'aiment pas non plus, donc je devrais peut-être m'intéresser à lui. Il a l'air pas si mal, finalement, ce Georges-Louis Boucher, qui est donc le président du mouvement réformateur, que j'ai interviewé il y a quelques mois, pour ceux qui ne suivent pas la politique belge. Donc il fait ce tweet-là, et Georges-Louis Boucher retweet, en fait. C'est pour ça que j'ai posé une question précisément à ce sujet, au sujet de ce retweet-là, quand j'ai rencontré Georges-Louis Boucher, parce que quand même, ça m'avait choqué. Il y a toute une chose, plein de choses à dire sur le comportement de Georges-Louis Boucher sur Twitter, qui est lui aussi assez waouh. Voilà, donc ça c'est pour mon vécu de harcèlement donc au début de l'année 2022. Encore une fois, le fait de l'avoir vécu directement, c'est très 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 très, très différent de d'avoir pu entendre des témoignages. Voilà, j'ai vu des documentaires sur le cyberharcèlement, j'ai entendu des histoires, des podcasts, j'ai lu des articles sur le cyberharcèlement. Ben, malgré tout, le fait de l'avoir vécu, c'est, encore une fois, à petite échelle. Ce n'est rien, je crois, comparé aux femmes qui se font harceler bien plus violemment. Eh ben voilà, je m'en passe volontiers. Sans transition, voilà, je vous avais promis de vous parler des grandes nouvelles, des grandes annonces pour cette nouvelle saison de 70 minutes avec. Il est temps de lever le voile sur toutes ces super nouvelles choses. Lever le voile entre guillemets, puisque on est en audio, je ne vais pas pouvoir vous montrer tout ça et je vous réserve encore des surprises pour la rentrée. Donc la rentrée qui sera donc, je le rappelle, le 1er septembre avec Caroline Désir. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'annulation, j'espère, je croise les doigts. J'ai toujours peur de ça. J'ai toujours peur quand je dois interviewer en particulier une personnalité politique. Mais bref, je digresse, pardon. Donc, une première chose, c'est que l'identité visuelle a été complètement repensée. Le logo, hein, la petite bulle de bande dessinée que vous voyez sur vos applis de podcast et sur les réseaux sociaux, sur le site du podcast. Ce logo que j'avais bidouillé en, je crois, quelques heures, c'est tout, de Photoshop complètement amateur en 2018, hein, quand ce podcast était vraiment tout petit, tout amateur, tout mignon. Concrètement, à chaque fois que je dois le montrer, que je dois présenter mon podcast à une inconnue, un inconnu, en soirée quelque part, j'ai toujours un peu honte de ce logo que je trouve terriblement cheap. Les gens, concrètement, hein, quand je demande aux éditeurs, aux éditrices ce qu'ils en pensent, personne ne le trouve mauvais. Mais vous allez voir que le nouveau logo, eh ben, il en jette, il est super cool, je suis super fan. J'ai travaillé avec un designer qui s'appelle Jerry Nkumu, qui est né au Congo, qui a grandi en Belgique, qui a vécu aux États-Unis et qui maintenant vit et travaille à Dubaï. Donc c'est vraiment une rockstar du design. Quand on fait nos calls, il est au bord de sa piscine avec sa chaîne en or et tout ça. C'est une rockstar absolue. C'est quelqu'un de super talentueux. Vraiment, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Donc, un nouveau logo, une nouvelle identité visuelle. Je suis très, très fan du résultat. Je ne vous montre pas encore le résultat, je suis désolé. Ce sera pour le 1er septembre. Et avec ça aussi, un tout nouveau design pour les teasers. Donc, ce que j'appelle les teasers, ce sont les petites vidéos animées. Donc concrètement, ce que je faisais jusqu'à présent, c'est que je prenais la photo de l'invité, je sous-titrais le podcast, je sous-titrais l'extrait de 2 minutes, ce qui prend énormément de temps, on ne se rend pas compte, mais ouais, ça, c'est hyper chronophage de faire ce petit truc de 2 minutes. Et puis je faisais une petite animation, et voilà, ça durait 2 minutes, et c'était là pour donner envie d'écouter l'épisode en entier. À partir de cette nouvelle saison, à partir du 1er septembre, les interviews seront filmées. Donc j'ai acheté du matos, j'ai acheté deux caméras, Blackmagic Cinema... Non, c'est Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Donc c'est du gros matos, peut-être pas du niveau du JT ou de CNN, mais des très bonnes caméras malgré tout. C'est à nouveau Jerry qui m'a conseillé de les acheter et il a eu totalement raison. Et donc les interviews seront filmées, ça va encore plus me rajouter du travail. Elles ne seront pas dispo, en tout cas pour l'instant, et ça va peut-être changer dans le futur, mais pour l'instant elles ne seront pas dispo sur YouTube pour, parce que concrètement, hein, on parle devant un micro, je pense que le format podcast reste plus intéressant pour des interviews comme ça. Donc elles ne seront pas dispo sur YouTube pour les voir en intégralité en vidéo. Mais donc ce sera pour la création de ces teasers de 2 minutes que je vais pouvoir publier sur les réseaux sociaux et que je pense que ça va beaucoup mieux fonctionner comme ça. Et donc il y a un nouveau format de teaser filmé avec un effet rétro que j'adore, dont je suis super fan. Et donc concrètement, l'identité visuelle qu'on a refaite, et ça va même plus loin que l'identité visuelle, hein, puisque ça touche aussi au son, et ça je vais en parler dans un instant. Mais concrètement, on est dans une ambiance 50s, 60s, 70s, une ambiance très rétro, très jazz, caméra argentique, bruit de l'aiguille qui se dépose sur le vinyle quand on écoute un album, Voilà, il y a une identité qui se veut très rétro, et y compris donc avec ce nouveau logo que vous allez découvrir bientôt. Et vraiment, je suis hyper fan de tout ce que Géry a pu produire pour moi. En plus de ça, je vais donc jusqu'à présent, le podcast était encore et toujours hébergé sur le serveur OVH de Fanny Ruet, cette fameuse Fanny Ruet, qui donc pendant un temps, on avait un réseau de podcasts ensemble, et puis complètement, elle a pris ses ailes, hein, elle a pris son envol pour faire sa carrière d'humoriste en France, et donc elle a besoin de plutôt faire les choses de son côté sur fannyruet.com. Et donc voilà, j'aime bien quand tu parles, petit à petit, concrètement, c'est un projet dont elle était très fière au début, et puis ça n'existe plus vraiment. Donc en fait, j'étais le dernier à toujours squatter son serveur, hein, comme un bon squatter. L'hébergement va changer, ça vous en foutez, ça va rien changer pour vous. Mais ça veut aussi dire que le site, jusqu'à présent, je redirigeais vers le site de j'aime bien quand tu parles.com. Le site va disparaître et va y avoir un nouveau site que j'ai codé avec mes petites mains, dont je suis encore une fois aussi très fier, avec des fonctionnalités sympas, des animations très sympas, tout ça. Il n'est pas encore tout à fait terminé. Je ne sais pas s'il sera prêt pour le 1er septembre, on verra. En tout cas, pour le mois de septembre, ça c'est certain. Et qui va donc permettre d'écouter les anciens épisodes, qui va permettre de facilement retrouver les liens vers toutes les plateformes quand on veut écouter, quand on veut s'abonner, tout ça, quand on veut partager, tout ça va être super. En plus de ça, un nouveau générique. Vous avez entendu aujourd'hui pour la dernière fois le générique que vous êtes nombreux à apprécier, mais qui est malgré tout un générique que j'ai acheté pour, je sais pas moi, 10 euros sur un site de musique royalty free. Le nouveau générique de 70 minutes avec m'appartient. C'est un générique que j'ai commandé en Angleterre à d'excellents musiciens jazz londoniens. Je suis très 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 fan du résultat. Vous allez pouvoir découvrir encore une fois le 1er septembre le résultat de ce nouveau générique que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Le volume va changer, c'est un petit détail technique. Jusqu'à présent, vous avez peut-être remarqué que quand vous écoutiez d'autres podcasts que 70 minutes avec, le volume était plus fort, alors que pour 70 minutes avec, il est quelques décibels plus bas. Je vais m'aligner sur les standards de podcast. Mieux vaut tard que jamais, mais voilà, c'est l'occasion de le faire avec cette nouvelle saison, tous ces changements qui arrivent en même temps. Au cours de la cinquième saison, il va peut-être y avoir une idée que j'aime bien, mais voilà, je vous ai expliqué qu'il y avait des périodes où c'était beaucoup plus dur de trouver des invités, ou peut-être moi je n'avais pas le temps pour des raisons professionnelles, personnelles ou quoi. Donc je pense qu'il va peut-être y avoir des épisodes best-of, des petites compilations de moments qui vous ont marqué, qui m'ont marqué, qui vont faire un petit épisode snack, écouter, je ne sais pas, pendant les fêtes ou à des moments où je ne suis pas en mesure de proposer un nouvel épisode de 70 minutes avec, et j'espère que ce ne sera pas trop souvent. Mais donc je vais sans doute introduire ça, et j'espère que ça vous plaira. Et un autre truc que je vais peut-être faire, je parle vraiment au conditionnel, peut-être mettre des chapitres dans les épisodes, puisqu'il arrive que les personnes écoutent des épisodes et puis ne sont pas du tout intéressées par un sujet qu'on aborde avec l'invité, et puis aimerait bien passer à la suite. Donc c'est une fonctionnalité qui existe dans de nombreuses applications de podcast. Mon application préférée, c'est Pocket Cast, et je pense que la fonctionnalité existe aussi sur Apple Podcast. J'aimerais faire ça. On va voir si j'y arrive, si ça ne me prend pas trop de temps, parce que tout ce que j'ai expliqué, hein, les nouveaux teasers filmés, etc., ça rajoute de la charge de travail, malheureusement. Donc voilà, on verra ce qui est possible, mais en tout cas, vous aurez compris que beaucoup de changements super cool, donc je suis super hyped de vous montrer tout ça le 1er septembre. Et puis un détail moins important, un peu plus technique, un peu plus... je ne sais pas si vous remarquerez la différence, je vais changer d'enregistreur. Donc jusqu'à présent, quand je faisais mes interviews, j'utilisais un Zoom H4 pour les connaisseurs, les connaisseuses. Et dorénavant, je vais passer à un Zoom H6, et ça va faire deux différences pour avoir peut-être un impact, c'est que déjà j'ai 4 entrées pour les micros, jusqu'à présent j'en avais seulement 2, un micro pour moi, un micro pour l'invité. Et donc quand je voulais avoir plusieurs invités, c'était compliqué, on préférait généralement utiliser une solution par internet, à distance, parce que j'avais que 2 entrées dans mon enregistreur. Ou alors une fois on avait fait un truc où les 2 invités se partageaient le même micro, ils devaient déplacer le micro devant leur bouche, enfin, c'est un peu du bricolage quoi. Donc dorénavant déjà 4 entrées, donc je vais pouvoir employer les vieux micros que j'avais au tout début, les Shure SM58 que j'employais quand j'ai démarré ce podcast. Maintenant, j'emploie des Shure SM7B, des magnifiques Shure SM7B que j'aime beaucoup. Et puis, l'autre différence, c'est aussi que ce Zoom H6, il a un compresseur. Et donc, ça veut dire que quand un invité va très, très, très près du micro et s'amuse à crier, par exemple, le président du mouvement informateur, au hasard, parce qu'il y avait un petit souci, si vous vous rappelez, où le son qui saturait, c'est quelqu'un qui parle très fort et qui s'était mis très près du micro. Et donc, normalement, ces situations-là vont être mieux gérées parce qu'il y a un compresseur dans le Zoom H6. Voilà, ça c'est théorique, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en parlant du président du mouvement réformateur, Georges-Louis Boucher, peut-être revenir sur cet épisode-là, donc l'épisode 58, je crois, puisque j'ai reçu une question à ce sujet, on me demande qu'est-ce que je regrette par rapport à mon interview avec Georges-Louis Boucher et qu'est-ce que j'ai vécu par la suite. Alors, question très, très précise et très qui va me permettre de parler de beaucoup de choses. Donc, pour rappel, j'ai reçu une invitation de la part du bureau, du staff de Georges-Louis Boucher. C'était en mars, quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup hésité. Déjà, ça m'a très fort surpris, parce que d'habitude, c'est moi qui invite les gens, et là, j'ai reçu une invitation. J'ai beaucoup hésité, j'en ai parlé autour de moi. Certains m'ont dit « Oui, vas-y, t'en es capable, c'est parfait, tu vas pouvoir faire une opposition ferme. » D'autres m'ont dit qu'on le voyait trop souvent dans les médias et que c'était une mauvaise idée et que valait mieux pas. Et donc, j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, peut-être que ce que je peux faire, c'est l'enregistrer et si ce n'est pas un bon résultat, je ne le publie pas. Mais je me suis dit que ça serait sans doute assez irrespectueux du temps que la personne, le staff m'accorde. Donc, je n'ai pas fait ça. Et j'ai réfléchi. Et puis, il y avait une question que je me posais très fort, c'est mais pourquoi est-ce que j'ai reçu cette proposition? Pourquoi est-ce qu'il veut venir dans mon podcast, dans ce 30 minutes avec? Ça me surprenait très fort, j'avais aucune info par rapport à ça. Et donc, je me suis dit, je vais téléphoner et je vais poser la question. Et en gros, ce que la personne m'a expliqué, c'est que c'est elle est elle-même, la personne qui gère les relations publiques, ou une des personnes qui gère les relations publiques pour Georges-Louis Boucher, m'explique qu'elle-même, elle est très grande consommatrice de podcasts, qu'elle adore ça, et qu'elle a vu, qu'elle a cherché un peu qu'est-ce qu'il y a comme podcast politique en Belgique, et elle a vu mon interview avec Zakia Khattabi, et il n'y a pas grand-chose d'autre en vrai. Hein. J'occupe un peu un segment à moi tout seul, j'ai l'impression. Zakia Khattabi a déjà été invité dans d'autres podcasts, mais c'est des trucs qui sont pas spécialement axés sur la politique ou les questions de société, et c'est souvent pour parler d'anecdotes de vie perso, pour les opérations que les politiciens font pour avoir l'air sympa, avoir l'air humain. La fille, elle tombe sur mon podcast et elle se dit, c'est parfait, je vais un podcast. Elle écoute et elle voit une bonne entente, parce que ça, c'est un truc dont on peut parler. Concrètement, sur 60 épisodes, je crois que j'ai reçu 6 politiciens, politiciennes. Donc le premier épisode avec Alexandre Decroux, qui était en anglais. Et vous allez voir pourquoi je fais cette précision. Le deuxième épisode avec Gilles Van Den Burg, député fédéral écolo. Puis un épisode avec Barbara Tracht, qui était députée écolo à ce moment-là au Parlement bruxellois et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. J'ai voulu faire d'autres interviews politiques, mais ça n'a moyennement marché. On a dû annuler. Puis j'ai eu Zaka Katabi, quatrième, et puis Georges-Louis Boucher. Dans toutes les interviews politiques, j'ai fait du vouvoiement. Je ne suis pas le pote des ministres. Il y a un objectif clair de la part des politiciens quand ils acceptent ou quand ils désirent venir dans un podcast, c'est « Ah, mais je vais me faire entendre par les gens, et les gens, ils vont voir que je suis sympa, que je suis humain, que je suis cool, que je rigole, qu'on s'amuse bien. » C'est un de leurs objectifs parmi d'autres. Et donc, moi, je n'ai pas trop envie d'être une plateforme, d'être une opportunité pour ces politiques de faire un peu leur pub, comme je viens de l'expliquer. J'ai pas trop envie. J'ai plutôt envie de creuser les sujets de fond et peut-être de les mettre en difficulté. Je suis tellement agacé par le fait que eux ont envie d'être en pépouze sur la plage quand ils viennent dans 70 minutes avec, que j'aime bien les mettre en difficulté, j'aime bien aborder les sujets un peu gênants, un peu touchy. Et donc on part sur un vouvoiement. Quand j'interview Georges-Louis Boucher ou Gilles Van Den Burg, ben on se vouvoie, voilà, c'est normal. Et alors Zaka Katabi, c'était un peu spécial. En fait, la veille de notre interview, Je me dirige vers son bureau, son cabinet, parce qu'on avait rendez-vous. Et puis elle me téléphone. Elle me dit oui, c'est Guillaume Haché. Et je dis oui, on peut se tutoyer. Et directement, on part sur un tutoiement, puisque j'ai pas refusé. Et elle m'explique qu'il y a un souci qu'on doit reporter au lendemain. Bref. Elle a réussi. Je ne sais pas si c'était une erreur de ma part. Je me pose encore la question. Mais toujours est-il qu'on était parti sur un tutoiement directement, même avant de lancer l'interview au téléphone. Et je continue à me demander si c'était une erreur, mais toujours est-il que la personne qui est en charge des relations publiques pour Georges-Louis Boucher a donc écouté ce podcast où on était effectivement, et peut-être que c'était une erreur, assez relax, où on parlait en se tutoyant, en racontant des histoires et tout ça. Et elle s'est dit, ah ben c'est génial, c'est parfait, Georges-Louis Boucher va venir là-dedans. Et bon, moi je ne crois pas à ce qu'on appelle l'objectivité, la neutralité journalistique, comme quoi je dois donner la parole à tout le monde, être sympa avec tout le monde et tout ça, puisque j'ai clairement un problème avec Georges-Louis Boucher sur sa communication, sur la façon dont il emploie Twitter notamment, la façon dont il parle des personnes. Il y avait ce truc, hein, au moment de la négociation pour le gouvernement fédéral, c'était quand ? C'était 2020, c'est ça ? Été 2020 ? Ou été 2021 ? Non, été 2020, je crois. Et donc il y avait ce truc où tous les partis politiques, suite aux élections, se donner des réunions, discuter entre eux et essayer de trouver un plan. Et il y avait souvent ce truc de Bart Weaver explique que Georges-Louis Boucher est imbuvable. Conor Rousseau, donc le président de Vooruit, le parti socialiste néerlandophone, explique que il arrive à une réunion et que Georges-Louis Boucher se moque de son sac à dos et fait des commentaires super dénigrants. Donc encore une fois, j'entends ça, j'ai l'impression qu'on parle de l'école secondaire, quoi, des petites brutes qui essaient d'humilier les autres. Et il y a ce truc qui revient dans l'actualité, qui est, ou dans, même quand je parle en off avec certains, enfin, bref, il y a cette idée régulière que ce gars est quand même assez imbuvable. Donc ça, c'est pour la forme. On pourrait dire, ok, on va l'ignorer si son projet politique est cool. Mais voilà, c'était très apparent quand j'ai fait l'interview qu'il se lâchait sur le wokisme, les woke, les féministes, le on ne peut plus rien dire, machin. Et à un moment donné, il est vraiment parti en roue libre et j'arrivais plus à l'arrêter. L'autre truc dont je me rappelle, c'est que à la fin, je sais plus si c'était avant ou après l'interview, mais je discute avec lui. Et on parle un peu de 70 minutes avec, de ce que c'est et tout ça, et de pourquoi j'étais content de l'interviewer, et je lui dis qu'il y avait une surreprésentation parmi les... Donc, si on refait le compte, il y a 5 politiciens, et il y en aura une sixième dans 2 semaines, qui était venue dans le podcast. Et je dis à Georges-Louis Boucher qu'il y a une surreprésentation, malheureusement, des écologistes, puisqu'il y a Zakir Khattabi, Gilles Van den Burg, Barbara Tracht, qui sont trois écolos, et il y a un libéral, Alexander De Croo. Voilà. Et donc je dis que c'est quelque chose que je regrette. Et ça, c'est vrai. Je regrette la surreprésentation des membres du parti écolo dans cette tente-mite avec. Ça s'est fait de manière un peu hasardeuse. Encore que, on pourra en débattre. Et donc, je lui dis ça. Ouais, il y a une surreprésentation, malheureusement, des écolos, des écologistes dans les invités précédents. Et j'ai vu sur son regard, mais vraiment, une grimace, comme si... Enfin, vraiment, on sentait que ça l'énervait, ça le choquait, ça le tendait d'entendre ça, très agacé. Et donc, c'est quelqu'un qui vraiment déteste, en fait, cette opposition-là à son projet politique. C'est quelqu'un que je trouve violent dans sa façon de s'exprimer. Bref. Donc, j'avais des problèmes avec Georges-Louis Boucher et j'ai beaucoup hésité à accepter. Et j'ai fini par le faire en me disant, eh ben, peut-être que je vais réussir à faire ressortir des choses, faire apparaître des choses. Il va sans doute être agressif, mais ça va permettre de faire ressortir, de montrer certaines choses à propos de lui. Et peut-être aussi, voilà, je vais pouvoir faire la rechercher mes sujets, rechercher les questions et le mettre en difficulté. Ça, j'y suis pas arrivé. C'est très clair. Quand on commence à discuter de nucléaire, quand on commence à discuter d'immigration et qui fait référence à des textes de loi ou je ne sais plus quoi, ou des précédents, des actualités d'il y a de plusieurs années, j'étais paumé, quoi. Clairement, j'étais là, ah, ok. Même chose quand il commence à parler de Jean Gaul et du Parti libéral dans les années 90, 80, tout ça. Paumé, je n'ai aucune de ces références, je suis trop jeune, voilà. Et donc là-dessus, c'est moi qui étais mis en difficulté, malheureusement, et ça, j'aurais dû l'anticiper. Et puis, il y a surtout le truc très gênant, qui est que à un moment donné, je le lance sur ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que Georges-Louis Boucher avait donc retweeté un tweet du harceleur de Myriam qui disait que ah, c'est trop bien, tous ceux qui me détestent aussi Georges-Louis Boucher, j'aurais sans doute m'intéressé à lui. Et le gars, il a retweeté ça, et je lui pose une question sur « Mais pourquoi est-ce que vous retweetez un mec comme ça ?» Et donc sa réponse, bon, c'était en gros de dire que le gars, il est anonyme, il change tout le temps de pseudo, il n'était pas au courant que c'était lui. Voilà. Bon, c'est pas une mauvaise réponse, je trouve, parce qu'effectivement, on ne peut pas lui reprocher de passer pas assez de temps sur Twitter et de pas suivre tout ça au millimètre près. Donc j'accepte cette réponse-là. Mais au moment où je parle de ça, commence à glisser sur des sujets qui sont vraiment brûlants pour lui. Il commence à parler de Marcel Selle et de quel point c'est un très grand journaliste qui dit la vérité. Il commence à parler de Myriam et Florence, qui sont mes potes, mais ça, je ne le dis pas, je ne l'exprime pas, parce que je pense que... À quoi ça aurait mené, hein? Ça aurait mené à encore plus d'agressivité de sa part. Il y a un moment de l'interview où il commence à dire... Et les gens comme, enfin, je sais plus ce qu'il dit, les gens comme vous ou et vous, vous dites ça, mais et en parlant de moi et du groupe auquel j'appartiendrais, un peu comme si j'étais le camp d'en face, quoi. Et donc à ce moment-là, je fais une grimace, je fais mais quoi, hein? Et puis là, il a un peu retourné sur ses pas, il a retiré ce qu'il venait de dire. Mais toujours est-il que il aurait vraiment, si je m'étais positionné comme étant le gars qui est vraiment dans le camp de Myriam et Florence, je pense que ça aurait mené à quelque chose d'encore plus tendu, quoi. Et parmi les choses qu'il a dites à ce moment-là, c'est qu'il a présenté Myriam et Florence comme étant des ennemis de la démocratie. En tout cas, il a dit que c'était, je crois, hein, de mémoire, que c'était comme ça que Marcel les présente et qu'il a bien raison et que c'est vraiment un grand journaliste et que voilà, c'est super ce qu'il fait. Et moi, je ne l'ai pas repris à ce moment-là. Alors, est-ce que j'aurais dû le reprendre ou pas? C'est une vraie question. Et je pense que tout le monde peut juger peut avoir son avis, son opinion sur cette question. Il y a plusieurs... Je peux mettre plusieurs casquettes. Je peux mettre la casquette du... entre guillemets, du wokiste, hein, puisque j'ai plutôt des convictions en faveur du féminisme. Je m'intéresse aux questions d'antiracisme, j'écoute sans... J'estime que je suis beaucoup trop blanc pour vraiment pouvoir comprendre et vraiment pouvoir dénoncer ces problèmes-là, et je laisse la parole sur ces questions-là aux personnes concernées. C'est ma façon de faire. Mais donc, j'ai plutôt des convictions, entre gros guillemets, je déteste le mot, mais plutôt des convictions woke, voilà. J'aurais pu mettre ma casquette de wokiste, entre guillemets. J'aime pas dire entre guillemets tellement je déteste ce mot, vous avez compris. Donc j'aurais pu mettre cette casquette-là, et ça aurait fait un match de grande boxe. Ce n'est pas un match de boxe, avec des grandes boxes. Mais ce n'est pas ce que je veux faire avec cette 30 minutes avec moi. Je veux poser les questions et entendre les réponses. Je ne veux pas commencer à faire un débat de convictions philosophiques, politiques, machin chouette, d'autant plus qu'il m'aurait bouffé tout cru, parce qu'il est bien meilleur en débat, il a bien plus l'habitude de ces choses-là que moi. Ça ne m'intéresse pas de faire ça. J'aurais pu aussi faire l'ami, le pote de Florence Henault, Myriam Leroy, j'aurais pu les défendre violemment. Alors là, j'avoue aussi que les histoires légales, juridiques, de qui a déposer plainte quand il y a telle poursuite, pourquoi est-ce que le jugement était ainsi, qu'est-ce que ça veut dire, comment il faut l'interpréter. Je le comprends dans les grandes lignes, mais j'aurais été incapable de sortir ces explications-là face à lui au moment même. Ça, désolé, mais c'est comme ça. J'en ai pas la capacité, je crois. Sauf si je m'étais vraiment préparé, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de ça. Et donc, j'aurais pu aussi couper au montage toute la partie où il parle de Florence et Myriam en me disant « Ben non, il parle mal d'elle, il crache sur elle, il dit des choses très, très... Comment dire ? C'est de la calomnie, quoi. C'est faux, c'est du... C'est complètement la fiction. J'aurais pu couper cette partie-là. Et là, j'aurais effectivement été le pote de Florence et Myriam qui ne veut pas laisser dire ça à leur sujet. J'aurais pu faire ça. Mais encore une fois, moi, je préfère la casquette du journaliste, de dire, OK, je pose une question, voilà la réponse de Georges-Louis Boucher, voilà qui il est, voilà quelles sont ses positions, voilà. Pour qu'on comprenne bien. Je sais que ça n'a pas forcément été apprécié par tout le monde, que je prenne cette décision-là, ça a pu même choquer certaines personnes. C'est très dur, et c'est très dur de faire un choix. J'ai pris cette décision-là et je l'assume. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Et je crois que la dernière chose dont je pourrais parler au sujet de cette interview, c'est est-ce que je le regrette ? Est-ce que je regrette d'avoir fait une interview de Georges-Louis Boucher comme ça ? Est-ce que je le referais ? Alors, je pense que quelque chose qu'on peut remarquer de manière générale dans ma sélection d'invités pour le podcast, c'est que c'est plutôt des gens qui m'intéressent, pas forcément des gens sur lesquels je suis, avec qui je suis exactement sur la même ligne, dont je partage toutes les convictions, mais c'est des gens à qui j'ai envie de donner la parole pour qu'on puisse les entendre, pour qu'on puisse mieux les comprendre. Et parfois, oui, ce sont des trucs où je me dis, mais c'est tellement brillant ce qu'il raconte, ce qu'il écrit, son travail, sa recherche. J'ai envie de mettre cette personne sur un podium pour qu'on puisse découvrir sa façon de voir les choses et peut-être que ça change notre façon de voir les choses. Par exemple, des Alex Mahoudo ou par exemple des Marie Pelletier. Voilà. Je prends tout le temps ces exemples-là, mais ce sont des bons exemples, je pense. Inversement, des gens avec qui je ne suis pas d'accord, des gens avec qui je me fight, des gens, des gros boomers conservateurs. On m'a demandé hein, si je voulais interviewer, comment il s'appelle encore ? Voilà, Drieux Godfridi, qui est donc un gars qui était proche du Parti Populaire quand ça existait, donc parti que certains jugent d'extrême droite, que certains jugent pas d'extrême droite, mais en tout cas un parti populiste, borderline, raciste, enfin... Des gens très trop à droite, trop à droite. Et donc il apparaissait dans leur contenu, et puis maintenant que ce parti n'existe plus, il est invité à Louvain-la-Neuve par les jeunes du mouvement réformateur et tout ça, et bref, c'est un mec anti-féministe, super réactionnaire, super conservateur, voilà, il écrit des livres. Alors, on me dit, mais tu devrais l'interviewer. Ça, c'est ma tante qui elle-même est très, très réac et très, très conservatrice et très rétrograde qui me suggère de l'interviewer. Ça ne m'intéresse pas d'interviewer des gens que je trouve horribles, des gens à qui des gens que je n'ai pas envie d'écouter. Et donc, je crois que finalement, Georges Boucher, en fait, il fait partie de cette famille-là, mais il a une place tellement importante, et il y a des choses que je ne comprenais, que je ne comprends pas chez lui, des questions que j'avais envie de lui poser. Je ne sais pas si j'ai obtenu les réponses que je voulais, mais soit. Et donc, j'ai été tenté, et j'ai aussi été tenté, et ça, je vais l'avouer, hein, c'est une très très mauvaise raison, accrochez-vous, très très la pire des raisons. Il y a un peu ce côté de je vais le voir en vrai, quoi. Je vais pas juste lire ces tweets horribles, voir les articles qui parlent de ces déclarations, machin. Je vais l'avoir en face de moi. Et il y a ce truc de c'est comme à la télé, quoi. Enfin, je sais pas. C'est presque par ego, en fait, ce que je suis en train de dire. C'est presque par ego que je me suis dit, je vais être dans la même pièce que lui, je vais l'interviewer, je vais parler avec lui. Très mauvaise raison. Très, très, très mauvaise raison. Et je le savais. Mais je crois que inconsciemment, c'est resté, quoi. C'est resté en moi et ça a influé sur ma décision. Et donc, ce que j'ai appris aussi de cette interview, c'est que je ne suis pas en capacité, quand quelqu'un est aussi... Parce qu'un truc qu'il faisait aussi, c'est qu'il coupait mes questions, il m'interrompait, et c'était très désagréable, et j'avais pas le contrôle, je perdais le contrôle sur l'échange, sur l'interview. Mais un truc que j'apprends du coup, et que je confirme, et que j'avais pas eu l'occasion de l'expérimenter plus tôt, mais ça m'étonne pas du tout, c'est que je suis pas capable de faire des matchs de boxe, quand la tension monte, quand on s'interrompt, quand on parle fort, quand on se dispute. Je ne suis pas capable de gérer ça, ça ne m'intéresse pas, et je suis incapable de le faire. De même que si une personne est calme face à moi, je suis incapable de l'attaquer, de la confronter, de l'engueuler. Je suis un garçon très très très, très calme, très très pacifique. Et donc, je ne suis pas capable de... Parce qu'il y a aussi un profil très mal dominant, très viriliste, hein, ce Georges Boucher. Je ne suis pas capable de gérer ça. Voilà, c'est quelque chose que j'ai appris. Et donc, je vais peut-être de nouveau céder à la tentation d'avoir en face de moi la personne à qui je suis opposé et à qui j'ai envie d'avoir un débat de fond, une discussion de fond plutôt. Je vais peut-être de nouveau céder à la tentation, mais ma règle dorénavant, c'est les profils un peu mal dominants, un peu virilistes, et en particulier quand ils ont des convictions avec lesquelles je ne m'intéresse pas du tout, que je n'ai pas envie d'exposer, à qui je n'ai pas envie de donner une plateforme, et il faut vraiment que je refuse, quoi. Il faut vraiment, vraiment que je refuse et pas que je me laisse tenter. Donc ça, c'est voilà, une leçon que j'ai apprise suite à cette interview avec Georges-Louis Boucher. Et donc, on arrive petit à petit, on est quasiment à la 70e minute de cet épisode solo. À chaque fois, je me dis, mais comment est-ce que je vais faire pour parler pendant 70 minutes tout seul ? En fait, c'est pas très dur. Hein. 70 minutes, c'est très très long et en même temps, ça passe vite. Quand on a des sujets comme ça, des sujets comme le harcèlement, les interviews qui sont mal passées, les sujets de fond, les nouveautés pour le podcast, les choses qui m'intéressent pour mes interviews futures, pour mes interviews passées, tout ça. Je suis capable. C'est des sujets sur lesquels je suis capable de faire des longs monologues autistiques même. Alors un sujet dont j'ai pas encore parlé et je crois que je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais peut-être une autre fois. Les personnes qui suivent cette entente avec assidûment depuis très longtemps et qui ont écouté toutes mes histoires et tous mes détails personnels savent que en 2017, j'ai fondé une société qui s'appelle QuickLyric, une startup qui tournait autour d'une application que cette société développait. En gros, ce que j'ai envie de dire maintenant, c'est que cette société est en phase de liquidation et que j'ai plein de choses à raconter sur ça, sur comment ça s'est passé, sur mon cofondateur que je déteste, mais tellement, et tellement une brute, tellement un harceleur, tellement un connard. La façon dont le financement s'est passé en Belgique et les trucs bizarres avec les appels de ministres et les apparitions dans la presse. Et aussi, surtout, le fait que quand j'ai commencé tout ça, en 2017, j'avais 22 ans, en fait, presque 23. Parce que oui, je publie cet épisode le 17. Mon anniversaire, c'était hier, le 16. Donc, quand j'ai commencé, c'était début 2017, j'avais 22 ans. Et j'avais des rêves plein la tête de sortir des sentiers battus, de tracer mon propre chemin. C'est des expressions que j'employais beaucoup et je crois que je les employais aussi au début de 70 minutes avec. Et puis, petit à petit, j'ai vraiment changé ma vision des choses vis-à-vis de tout ça. Et c'est des choses dont j'aimerais bien parler. Et peut-être que ça prendra un épisode entier, je ne sais pas. Mais à l'occasion, voilà, quand la liquidation sera terminée, peut-être faire un post-mortem de tout ce que j'ai appris de mon chemin entrepreneur. Aujourd'hui, je ne suis plus un entrepreneur, je ne suis plus dans l'univers des startups. Je trouve que ce 70 minutes avec est beaucoup plus enrichissant et beaucoup moins stressant, oppressant qu'une startup peut l'être. Donc, c'est peut-être un sujet pour une prochaine fois, parce que là, je n'ai plus assez de temps. Il reste une minute ou deux avant que la 70e minute démarre. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt, à dans deux semaines, en vidéo donc, avec un nouveau générique, avec un nouveau logo, une nouvelle identité visuelle, peut-être des chapitres, peut-être un nouveau site, on verra si le timing le permet. Hâte d'avoir vos avis sur toutes ces nouveautés et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.